Nous sommes dans les dernières heures de préparation à Noël. Et c'est Zacharie qui nous est donné comme modèle pour cette toute dernière préparation. Alors, qu'a-t-il à nous dire, le vieux Zacharie ? À la naissance de Jean-Baptiste. C'est un mystère de naissance. C'est le mystère d'une réalité absolument surprenante et transformante. Il est devant. Il la touche, cette naissance qui le prépare à la naissance de Jésus. Jusque-là, il a fait un rude chemin, notre Zacharie. Oh, il connaissait la parole. Il était un ministre du culte, saint, irréprochable devant Dieu. Mais pas adapté au don de Dieu. Tu seras muet, lui a dit l'ange, révélant cette inadéquation. Mais quelle est-elle, cette inadéquation? En philosophie, on parle des êtres de raison. Ça m'avait toujours surpris, ces êtres de raison, par rapport à la réalité. Eh bien, je crois que c'est de ça dont il s'agit. On peut se faire tout un monde imaginaire de Dieu, des signes et des symboles de Dieu, se faire toute une construction imaginative, c'est déjà pas si mal. Mais ce n'est pas la réalité. Un être de raison, ce n'est pas la réalité. Il pouvait paraître saint et irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Mais Dieu ne s'y trompe pas. Son cœur n'est pas ajusté. Qu'est-ce qui va ajuster le cœur de Zacharie? Certes, toute l'étude de la parole, toute la pratique de la liturgie ne vont pas être inutiles. Mais il faudra ce bouleversement d'Élisabeth, sa compagne qui est enceinte, loi contre nature. Mais je pense qu'il faudra surtout la venue de Marie. Quand Marie pénètre dans la maison d'Élisabeth, de Zacharie d'abord, et qu'elle salue Élisabeth, tout est transformé. C'est cette fois la réalité qui est introduite par l'Esprit Saint. C'est cette fois quelque chose de fondamentalement nouveau. Enfin, comme une carte postale qu'on regardait à plat, pas si mal, et que l'on voit subitement en relief. Ah, ça change tout. C'est totalement différent. Ce regard sur Marie, qui, elle, n'est pas dans les êtres de raison, elle est dans la réalité profonde de celui qui l'habite. Elle est dans la contemplation intense de celui qui la nourrit. Elle rejoint Élisabeth dans son intériorité. Muet, sourd peut-être, il voit, il regarde, il contemple. Et quand Marie est partie, toute la place est au Saint-Esprit cette fois. Et dans l'Esprit Saint, à la naissance de cet enfant, Dieu le comble de toute manière. On dit toujours qu'un père est père quand il voit son enfant. La femme est mère bien avant. Alors, tout rempli d'Esprit Saint, le voilà qui prophétise. Et cette fois, ce ne sont plus des êtres de raison. Il prophétise une réalité profonde, annoncée depuis toujours. Béni soit le Seigneur. Il a visité son peuple. Oui, la maison de David, eh bien, en a fait lever une force. Et cette fois, tout sonne juste. Tout sonne vrai. Tout sonne d'une manière absolument étonnante. La réalité est là. D'abord, la réalité de Dieu qui donne réalité à tout ce qui est. Oui, c'est bien ce qu'avaient annoncé autrefois les prophètes. Nous sommes délivrés de nos adversaires. Et les adversaires intérieurs sont plus tenaces que tous les adversaires intérieurs. Entendons cet imaginaire et ces violences qui nous habitent. Il nous arrache des mains de l'ennemi. Il nous donne de célébrer un culte nouveau. Et la divine Eucharistie est ce culte nouveau, dans un réalisme étonnant où c'est Jésus qui se donne en nourriture pour que nous ayons la vie. Et toi, petit enfant, et cette fois, c'est de chacune et chacun dont il s'agit, peuple de prophètes, peuple de prêtres, peuple de rois, tu vas marcher devant le Seigneur pour lui préparer le chemin. C'est la tendresse du cœur de notre Dieu. Alors demandons à l'Esprit Saint qu'il nous prépare pour cette nuit de Noël où nous allons recevoir son enfant. En fait, c'est un mystère d'engendrement. Certes, c'est l'enfantement de Marie qui nous fait toucher l'engendrement du Père. Le lieu où Dieu se donne sans cesse dans un amour infini. Eh bien, demandons d'être dans cette réalité pour nous laisser toucher et transformer par cet amour infini.
Voilà 4 semaines déjà, frères et sœurs, que nous nous préparons à cette belle, grande fête de Noël. Pendant 4 semaines, nous avons médité la parole de Dieu. Elle nous a fait découvrir cette attente, ce désir qui se cache au cœur de chacun, de chacune. Et en même temps, une surprise. Comment donc se fait-il que depuis 2000 ans que Jésus est venu, nous ayons toujours autant de violence, toujours autant de misère, si ce n'est plus dans ce monde? Peuple qui marchait dans les ténèbres, combien aujourd'hui d'enfants, de femmes, d'hommes, de pauvres sont dans la ténèbre? Combien, comme Joseph et Marie, n'auront pas de toi cette nuit, n'auront rien, pas même une assiette? Le joug qui pesait sur eux, Isaïe, le bâton qui meurtrit les épaules, le fouet du chef de corvée, ils sont toujours là. Et pourtant, depuis 2000 ans, il se passe des choses absolument extraordinaires. Mais ces choses extraordinaires, elles sont cachées. Elles sont secrètes. Comme cet événement qui nous est donné dans l'Évangile. Aujourd'hui encore, les peuples sont recensés. C'est toujours la même puissance du monde C'est toujours le même pouvoir des hommes. Ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Et ce sont toujours les mêmes pauvres sur les chemins, les mêmes sur les routes. Mais cette fois-là, il y en avait deux. Il s'appelait Joseph et il s'appelait Marie. Et pendant qu'ils étaient là, arrivent les jours où elle devait enfanter. Elle mit au monde son fils premier-né. Celui que nous célébrons dans la liturgie, dans un décor qui se voudrait imiter ce qui était à cette époque, mais nous ne nous y trompons pas. Il n'y avait pas de lumignon dehors. Et la salle n'était pas chauffée. On était tout à fait en courant d'air. Et bien c'est là qu'elle mit au monde son fils premier-né. Que fait Dieu? Où est Dieu? Ah, il y a quelques bergers qui pincent leurs troupeaux dans les environs. Ces gens, pas très recommandables. Il vaudrait mieux ne pas les fréquenter. Vous savez, on ne sait pas d'où ils viennent. Et puis, on raconte beaucoup de choses sur eux. Ce sont vraiment ces pauvres, ces bergers, qui passent la nuit dans les champs à garder leurs animaux. Eh bien, là voilà, que l'ange s'approche. Voilà qu'ils sont enveloppés de lumière. C'est très nouveau pour eux. Et pourtant, ils attendent. Ils attendent quelque chose dans leur cœur et dans ce monde qui ne s'occupe vraiment pas beaucoup d'eux. Le ciel, lui, pense à eux. Et un ange se met à parler. Voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Décidément, c'est pas ordinaire. Voilà où Dieu va se cacher. Voilà où Dieu va donner une parole, parce que là, elle est entendue. Aujourd'hui, vous aimez un sauveur dans la ville de David. Oui, ils le savent qu'ils sont dans la ville de David. Il y a tous ceux qui font la fête à côté. Ils n'en sont pas, eux. Et ce petit, il est le Messie, il est le Seigneur. Voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Quelle drôle d'idée! Dans une mangeoire. En effet, nous nous savons qu'il est plein de vie. Et nous allons encore nous en nourrir ce soir. Soudain, avec l'ange, une troupe céleste qui glorifie Dieu, gloire à Dieu et paix sur la terre. Ces bergers se mettent en route et le mystère maintenant va s'éclairer. Et le pourquoi des questions que nous pouvons nous poser vont trouver leur réponse. Ils s'approchent. Et que voient-ils? Ils voient vraiment des choses très extraordinaires. En effet, une femme dont le visage resplendit d'amour. Dans cette pauvre étable, la paille scintille comme si c'était des brins d'or. Mais surtout, cet or pur, il est dans son regard. Et dans ses yeux humains, le ciel apparaît. Et le mystère de Dieu se révèle. Cette femme, elle porte en elle une humanité étonnante. Jamais ces petits bergers ne l'avaient vu ailleurs. Et pourtant, ils en avaient fréquenté du monde. Et pourquoi pas du beau monde? Non, c'est tout autre chose qui s'offre à leur regard. Il y a un homme, Joseph. C'est pas tout à fait pareil pour lui. On dirait que sa beauté, parce qu'il est beau cet homme, elle vient d'elle. Et c'est vrai, quand il se regarde, il y a quelque chose d'étonnant. Un amour extraordinaire qui se dit. Mais c'est pas tout. Quand tous les deux se penchent vers cet enfant, alors véritablement c'est le ciel. Ce tout petit, c'est lui qui fait rayonner de cette manière le cœur de sa mère. C'est lui qui fait briller ses yeux et les yeux de Joseph. Alors, les bergers commencent à comprendre, et nous aussi. Dieu n'est pas là où on le croyait. Dieu se cache dans le cœur des tout petits. Il se cache dans le cœur des pauvres. Il se cache là où on est en attente d'amour. Et ces bergers comprennent que ce Dieu, il ne les a pas trompés. En effet, ils savent, eux, dans leur attente de toujours, qu'ils sont faits pour ce bonheur-là. Qu'ils sont faits pour ce bonheur de Dieu. Mais qui leur dira ce bonheur? À moins qu'ils se mettent en vie. C'est bien ce que nous voulons ce soir. Contempler Marie, qui elle-même reçoit de Jésus tout cet amour et toute cette lumière. Contempler Joseph, qui reçoit de Marie tous les classes qu'il ne pourrait pas avoir autrement.
Mais surtout, s'approche du micro.
Contempler ce tout petit. Il se fait pour nous ce soir point de vie. C'est le même. Il se fait pour nous ce soir vin de noces, parce qu'en effet, il est le plus nécessaire à notre vie ordinaire, tout ordinaire. Mais il est celui qui réjouit nos fêtes. Il est celui avec lequel nous pouvons attendre ce bonheur du ciel, le seul bonheur. Alors oui, toujours César Auguste, oui, toujours ce peuple dans les ténèbres et ce partage des époux, des vaincus. Mais en même temps, mystérieusement, un monde nouveau est en train de se lever. Et ce monde, eh bien, nous en sommes pas seulement les témoins, mais nous en sommes les messagers. L'homme dépasse l'homme. Et nous savons qu'au plus intime de notre vie, une espérance d'un amour infini est là et se cache. Et Dieu seul, lui seul, peut le combler. Demandons, frères et sœurs, dans ce Noël, de comprendre que Dieu seul peut combler notre cœur et faire de nos relations des relations d'amour semblables à celles qui existent dans ce mystère de Dieu même que l'on appelle la Trinité Sainte. C'est notre prière ce soir.
Une grande transformation est en train de s'opérer dans le monde. Hier soir, à l'aube, cette nuit déjà, et puis maintenant, à l'aurore. Voici la parole que le Seigneur fait retentir. jusqu'aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur qui vient. Le fruit de sa victoire l'accompagne et ses trophées le précèdent. La parole de Dieu se fait de plus en plus intérieure. Le mystère, il retentit au creux du silence. La parole de Dieu se réalise, mais d'une manière tout à fait étonnante et nouvelle. On ne l'avait jamais vue. On ne l'avait jamais entendue. Dites à la fille de Sion. La fille de Sion, c'est Marie. Dès que Sion est évoqué dans l'Écriture, c'est le visage de la femme qui apparaît. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur. Et en effet, Marie, exilée, non accueillie, dans un repaire d'animaux, voit son sauveur dans une crèche, une mangeoire d'animal. De la crèche au crucifiement, il n'y a qu'un pas, puisque pour Dieu, un seul jour est comme 1000 ans. Le fruit de sa victoire l'accompagne. Quelle victoire ? Pour l'instant, ils sont seuls. Et ils sont seuls dans un repaire d'animal. Que fait Dieu ? Mais dans le cœur de la fille de Sion, depuis l'Annonciation déjà, et bien avant, brûle un feu caché. C'est le feu de l'amour de Dieu qui aboutit sur la terre. Et dans la contemplation de ce tout petit enfant, quelque chose de la vie divine est en train de se réaliser. Le fruit de sa victoire l'accompagne. Et du bruit à l'horizon, à l'aurore, ce sont ces petits bergers qui arrivent. Et le texte de Luc nous dit, tout le monde s'étonnait. Il n'y a donc pas que quelques petits bergers, Marie et Joseph. Il y a déjà du monde qui arrive. Allons jusqu'à Bethléem voir ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. Il se hâte, comme Marie à la visitation. C'est l'amour vivant de ce monde qui commence à se manifester. Il leur avait été dit, vous verrez un enfant nouveau-né caché, couché dans une crèche. C'est le signe qui vous sera donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté. La tendresse de la femme est manifestée. Je vais avoir quelques bandelettes dans une poche. Emmailloté, comme déjà le crucifié sera emmailloté. Tout porte dans la symbolique de la crèche au crucifiement. Couché dans une mangeoire. Oui, déjà, l'origine et la fin se rejoignent. Et il y a ces anges qui sont repartis maintenant. Et quand ils arrivent, ils voient autre chose. Ils arrivent et ils trouvent Marie et Joseph. La première église, l'église de Bethléem. La première église parce qu'il faut que cet enfant soit enveloppé. Lui, le Fils éternel du Père. Dans quelques heures, la liturgie va le célébrer. Au commencement était le Verbe et le Verbe s'est fait chair. Il se hâte, il découvre Marie et Joseph, nous en avons parlé cette nuit, et le nouveau-né couché dans une mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent tout ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et à nouveau, le mystère s'accomplit. Ce qui se vit dans le secret, un jour sera révélé sur les toits. Il raconte à Marie et à Joseph. C'est donc qu'ils en ont besoin, comme à la visitation pour Élisabeth à propos de Marie. Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Comme une confirmation, Marie est dans la pauvreté, dans la petitesse. Elle est dans un abandon au Père total. Mais elle est dans la foi, dans la nuit de la foi. Et dans la foi, nous avons besoin de temps en temps qu'une parole nous soit donnée. Eh bien maintenant, rebondissement de cette parole. Oui, les anges sont venus, ils ont chanté « Gloire à Dieu au plus haut des cieux !» Paix désormais sur la terre aux hommes de bonne volonté. Ils racontent tout ce qui leur a été annoncé. Oui, vous verrez cet enfant emmailloté dans une crèche. Confirmation pour la femme, confirmation pour Marie, pour Joseph aussi. Et tout le monde s'étonne de ce qui est en train de se passer, comme à la visitation. Quel sera donc cet enfant? Que est-il en train de se passer dans ce monde? À la fois, rien ne change à l'extérieur, et en même temps, désormais tout est changé, tout est nouveau. Marie, cependant, retenait tous ces événements. Elle les synthétise, elle unit en elle tous ces apports différents. Et progressivement, la parole la travaille, comme cet enfant pouvait travailler cette femme. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Qu'est-il en train de se passer? Ça, c'est le mystère de l'église de Bethléem. Un profond silence, un immense recueillement est déjà une manifestation de quelque chose de nouveau. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient, ils louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu selon ce qui leur avait été annoncé. Toujours une parole qui donne sens au vécu, un vécu qui a besoin d'être intériorisé, une parole qui confirme ce vécu, et un grand silence à l'intérieur duquel l'amour infini de Dieu fait son travail. Dieu est dans ce monde désormais, et même si extérieurement rien ne change, à l'intérieur, tout est changé. Nous voilà au soir de Noël. La liturgie nous a fait faire tout un cheminement depuis la messe du soir, la messe de minuit, la messe du matin et la messe du jour. Ce n'est pas trop de quatre Eucharisties pour nous faire pénétrer dans ce mystère de Noël. Et maintenant, déjà, nous sommes les envoyés. Nous sommes celles et ceux qui avons compris. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ce sont les mêmes que déjà Isaïe annonçait. Comme il est beau de voir courir sur les montagnes le messager qui annonce la paix, le messager qui annonce la bonne nouvelle, qui annonce le salut. Celui qui vient dire à la cité sainte, il est roi, ton Dieu. En même temps que nous avons compris combien Dieu nous aime, combien il est présent dans ce monde, en quoi il nous sauve, dans le même mouvement, nous sommes envoyés pour faire retentir cette bonne nouvelle. Écoutez la voix des guetteurs, le rappel retentit. C'est un seul cri de joie. Ils voient de leurs yeux le Seigneur qui revient. C'est une grâce très étonnante qui est la nôtre. Nous sommes celles et ceux qui, dans le monde, connaissent leur origine, savent que Dieu est leur Père et veulent annoncer cette bonne nouvelle parce que c'est vraiment une bonne nouvelle. Et ils veulent l'annoncer partout dans l'univers, souvent dans le passé. Dieu a parlé à nos pères par les prophètes sous des formes fragmentaires et variées. Toute cette humanité qui cherche Dieu, qui connaît quelques bribes de la révélation, qui connaît quelques aspects du mystère de Dieu. Mais dans les temps où nous sommes, Dieu a parlé par ce Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, lui qui a créé les mondes. Ce petit Jésus que nous avons accueilli cette nuit de Noël, il est le créateur de tous les mondes. Il est mon créateur. Il est celui qui m'a voulu dans la volonté du Père et qui m'a fait naître à l'existence. Et il est celui qui, cette nuit, s'est manifesté comme un tout petit enfant, le petit enfant de Marie. Mais ce petit enfant de Marie, dans sa pauvreté, il est le resplendissement de la gloire du Père. Autrement dit, en même temps que Dieu nous est révélé, l'homme, notre mystère, nous est révélé. Nous portons tous en secret un diamant, un mystère absolument étonnant. Nous sommes le reflet de Dieu. Nous sommes le lieu de la vie de Dieu. Or, cette vie de Dieu, elle est amour, elle est tendresse, elle est miséricorde. Reflet resplendissant de la gloire du Père, expression parfaite de son être. Ce Fils qui porte toutes choses par sa parole puissante. En se révélant, Dieu révèle ce que nous sommes. En découvrant ce que nous sommes, nous découvrons le mystère de Dieu. Combien nous avons besoin, aujourd'hui, peut-être plus que jamais, de contempler le mystère qui nous habite. Nous sommes le temple de Dieu. Dans nos cœurs, dans nos vies, Dieu rayonne, Dieu vit, Dieu aime. Et ce Dieu, c'est Marie, une petite créature qui l'enfante. Cet enfantement, c'est l'engendrement éternel du Père. En effet, Dieu dit, tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Mystère d'un bouillonnement, d'un jaillissement d'amour. Bouillonnement, jaillissement d'amour qui est le mystère de Dieu même. Eh bien, Dieu, dans sa grande tendresse, a voulu que ce bouillonnement déborde et que nous soyons ce débordement de son amour. C'est dire notre appel, notre vocation, c'est dire combien il faut annoncer cette bonne nouvelle à ce monde. Le monde en a tellement besoin. Cri de joie, ruine de Jérusalem, le Seigneur a consolé son peuple. Il a montré la force divine de son bras. C'est la force du bras du tout petit bébé, l'enfant de Marie. Ce bras du petit bébé, enfant de Marie, c'est le bras de Dieu qui fonde l'univers. C'est dire la présence de Dieu dans ce monde. C'est dire combien il nous faut être confiants, combien il nous faut être sécurisés en Dieu. Nous en avons aujourd'hui besoin, plus que jamais. Or, ce tout petit se laisse à contempler. Et nous sommes pris, non seulement dans cette maternité de Marie, puisque son premier-né, nous sommes tous ses frères, puisqu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de devenir enfant de Dieu. Mais nous sommes tous le lieu où Dieu lui-même se donne. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Et quand nous célébrons l'Eucharistie, nous le savons bien, de la crèche au crucifiement, il n'y a qu'un pas. Déjà Marie, quand elle le pose dans la mangeoire à grains pour les animaux, elle l'offre en holocauste et en sacrifice. Il est déjà offert, et ceux qui l'ont dessiné emmailloté comme il est emmailloté au calvaire, dans le tombeau. Mais il ressuscite et il donne la vie. Eh bien, il nous a donné de le faire naître au milieu de nous par la divine Eucharistie. En effet, nous redisons les paroles que Jésus nous a données et nous faisons advenir son mystère, nous faisons advenir son amour, lui qui est pain de vie, vin de noces. Combien le monde a besoin de connaître ce mystère. C'est seulement en connaissant ce mystère qu'il peut se reconnaître de la même humanité. En effet, nous sommes du même sang que le Christ. Nous communions à son corps et à son sang. Et dans cette communion, nous nous reconnaissons. Et quand nous savons la pauvreté dans laquelle il est venu nous visiter, quand nous savons qu'il a visité tous ces pauvres, eh bien, ça va de soi. Ce sont les pauvres dans nos cœurs qui ont la première place, parce que ce sont eux qui reçoivent ce mystère. Alors nous demandons ce soir, dans cette Eucharistie, d'être vraiment ces messagers de la bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle. Dieu au milieu de nous, son amour infini qui nous est proposé. Demandons d'être rassasiés, d'entrer dans ce débordement d'amour qui est le mystère de notre Dieu, et là où nous sommes, de le rayonner. Cette grande fête de Marie, Mère de Dieu, il a fallu beaucoup de temps aux premiers chrétiens pour arriver a manifesté que Marie était la mère de Dieu. Au lendemain de Vatican II, Paul VI a déclaré Marie mère des hommes. Marie est donc mère de Dieu et mère des hommes. Elle a donc quelque chose à nous dire.
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage.
Voir Dieu, c'était vraiment le désir de tous les saints, les prophètes.
Mais nul ne peut voir Dieu sans mourir. Tu me verras de dos, disait Dieu à Moïse. Eh bien, ce visage de Dieu, il resplendit d'une manière étonnante sur le visage de Marie. Parce que le visage de Marie est le visage de Jésus. On peut dire que c'est le même visage, les mêmes traits. Quand on regardait l'un, on voyait l'autre. Avec bien sûr cette distinction du masculin et du féminin. Quand les bergers arrivent à la grotte, quand ils regardent ce qui leur est offert à contempler, ils voient quelque chose d'absolument extraordinaire. De ces visages rayonne une paix, une joie, une vie jamais vue sur cette terre. La vie de Dieu brûle au cœur de cette petite fille. Parce que dans la rencontre avec son fils Jésus, le Dieu vivant, le Dieu trois fois saint, le Dieu d'Israël, invisible, indicible, dans sa rencontre avec lui, elle est totalement transformée. Notre humanité vit la divinité. Et Marie, là, a un secret à dire à l'humanité dans sa finalité. La finalité de l'humanité, c'est de vivre Dieu. On peut chercher par tous les moyens, possibles et imaginables, à trouver le bonheur. On ne le trouvera jamais. Saint Augustin nous l'a dit d'une manière étonnante. Je le cherchais, lui, à l'extérieur. Il était à l'intérieur. Dieu est à l'intérieur du cœur de l'humanité. C'est très étonnant. C'est vraiment la découverte des bergers. Et l'apôtre Paul nous le dira encore, l'Esprit Saint, l'amour infini de Dieu, ce qui lui qui donne au Père d'être le Père, au Fils d'être le Fils, à Marie d'être ce qu'elle est dans son mystère. Eh bien cet Esprit Saint lui-même vient au secours de notre faiblesse et se joint à notre esprit pour que nous découvrions que nous sommes enfants de Dieu. Et nous le sommes. Ça, c'est la réalité très rapidement évoquée du mystère, de la nouvelle Ève et du nouvel Adam, de cette nouvelle création venue par Jésus. C'est vraiment une nouvelle création. À la fois, c'est la même humanité et en même temps, elle est totalement changée parce qu'elle vit Dieu. Elle vit de Dieu, elle vit d'un amour infini, amour que nous avons à découvrir, amour que nous recevons chaque fois que nous communions dans la Sainte Eucharistie. C'est le même corps boulangé par la femme, c'est le même sang qu'elle a donné à Jésus, qui est là pour nous revitaliser, pour nous guérir. On parle quelquefois de la transfusion de sang à un grand malade. Eh bien, nous avons de quoi faire, nous qui sommes de pauvres pécheurs. Chaque fois que nous communions au corps et au sang de Jésus, nous entrons dans cette transformation-là. Mais qu'est-ce que Marie, dans un pareil mystère, a à nous dire? Eh bien, Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Là, nous sommes, puisque nous sommes ses enfants, remis à son école, elle, la mère de Dieu. Or, que fait Marie devant cet amour incroyable qui lui est donné? Elle s'abandonne comme une toute petite fille du Père. Elle laisse cet amour la transformer fondamentalement. Elle n'a aucun retour sur elle-même. Elle n'a qu'une ouverture au Dieu invisible, indicible, qui se rend si présent à elle. Elle reçoit tout avec l'étonnement d'un grand amour. Elle garde cependant tous ces événements et les médite dans son cœur. Il s'agit cette fois de notre vie spirituelle. Chaque fois que nous sommes touchés par Dieu, et nous le sommes puisque nous sommes là, eh bien, il ne faut pas se contenter, surtout aujourd'hui, dans une société de consommation qui est la nôtre, dans la société où on zappe sans arrêt tous les événements, sans jamais les intérioriser. Là, Marie a quelque chose d'unique à nous dire. Pour ce temps dans lequel nous sommes, il faut prendre le temps de s'arrêter, de voir ce que Dieu est en train de faire, de le méditer, de le contempler, de le confirmer, de le regarder de toute manière, pour laisser germer, jaillir, se fortifier au plus profond de nous l'être nouveau que Dieu est en train de faire. Comment cela se manifeste en Marie, dans toute sa vie? Mais prenons simplement trois exemples. L'Annonciation, elle est totalement bouleversée, elle est totalement transformée, elle porte en elle le Fils du Dieu vivant. Et à la visite d'Élisabeth, Élisabeth la surprend en lui disant « Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Elle lui dit ce qui est en train de se passer chez elle. Et ce dire est absolument nécessaire. C'est le rôle de l'Église, c'est le rôle de la communauté, c'est le rôle de cette méditation. Et là, Marie retient tous ces événements, elle les médite dans son cœur, elle en a besoin, comme nous en avons besoin. Le deuxième lieu, c'est le nôtre. Elle vient de mettre son enfant au monde. Elle est dans cette joie incroyable, puisqu'il est là, son tout petit à elle, et c'est le tout petit du Père. Eh bien, les anges viennent la confirmer. Les bergers le disent, ils ont entendu ces anges qui chantent et qui l'envoient, allez voir, et vous verrez un enfant couché dans une mangeoire. À nouveau à ce propos, Marie retient tous ces événements, à la fois ce qui est dit dans la parole, à la fois ce qui est vécu en elle, dans son intime, son plus profond, et à la fois ce qui lui est révélé par l'extérieur. Nous en avons besoin. Elle passe sa vie à méditer et à comprendre ces événements pour que ces événements la changent, la transforment au plus intime d'elle-même et qu'elle réalise ce pourquoi elle est faite. Le troisième lieu, c'est quand à 12 ans, on monte à Jérusalem et que Jésus reste. Pendant 3 jours, elle le cherche dans l'angoisse. Et quand elle le retrouve, il dira « Pourquoi me cherchez-vous ? Il me fallait être aux affaires de mon Père. » À nouveau, elle va prendre ces événements, les méditer dans son cœur, essayer de faire en sorte que tout cela se synthétise au plus intime d'elle-même. Alors, elle sera capable d'être debout à la croix. Alors, elle nous devancera au ciel, dans son corps, dans son âme, dans son cœur, dans tout ce qu'elle est. Dieu la transforme profondément, intimement. Et son chemin est le nôtre, elle est notre mère. Elle est la mère de Dieu, elle est la mère des hommes. Alors demandons en ce début d'année que nous entendions cette parole, que nous mettions à cette école, et que nous méditions, que nous contemplions sans cesse, non seulement la parole de Dieu, non seulement les expériences que Dieu nous donne, mais encore tout ce qui peut nous arriver dans la vie, de manière à ce que progressivement la synthèse se fasse, et qu'alors nous soyons profondément transformés, et que nous devenions ce que nous sommes, enfants de Dieu. Nous sommes au lendemain de Noël. Encore dans cette ambiance de ce tout petit qui apporte la paix au monde. Nous avons fêté la fête des saints innocents pour bien montrer combien la venue de l'amour dans ce monde va déranger, va bousculer fondamentalement l'ordre de l'univers. Et déjà, nous nous trouvons alors devant ce qu'on pourrait résumer comme l'adversité. C'est comme si l'Église, dans sa sagesse, voulait nous fortifier, voulait nous aguerrir, voulait nous mettre dans cette prudence, dans l'attitude à avoir pour faire en sorte que désormais, dans nos vies, dans nos cœurs, le don de Dieu, le don de son amour infini tienne bon. Et nous savons combien ce combat spirituel n'est pas du tout facile. Alors on le voit bien dans les deux lectures de Saint Jean qui nous sont données. D'abord, il y a cette incompréhension du monde par rapport au mystère de Jésus. C'est ceux de Jérusalem qui viennent pour qu'on leur rende des comptes. Qui es-tu ? Que fais-tu là ? Par quel pouvoir tu fais cela ? Et qui t'a envoyé ? Et nous voyons Jean-Baptiste à l'école de Jésus qui ne va répondre que par la négative. Non, ce n'est pas moi. Non, non, je ne suis pas celui que vous attendez. Et ce n'est pas du tout une dérobade, mais premier élément de ce combat spirituel. Ne jamais prendre l'ennemi face à face. Nous sommes déjà perdus. Le combat, a priori, est déloyal. Et le menteur, de toute manière, aura toujours raison si nous nous mettons à son niveau. Il nous faut au contraire, comme dans l'orage, se cacher, entrer dans cette vie cachée de Marie, demeurer dans l'amour, comme le roseau plié, et laisser l'orage passer. C'est vraiment ce que fait Jean-Baptiste. Alors on sera pris comme pour lui, un peu comme des idiots, des gens pas très intéressants. Mais nous savons que ce n'est pas le niveau avec lequel il nous faut combattre. Et cependant, Jean-Baptiste dit quelque chose de très étonnant qui aurait dû faire que, si on était mû par l'esprit, on le reconnaisse. « Je suis la voix », dit-il. Ce n'est pas rien la voix. Dans nos relations les uns avec les autres, l'intonation de la voix que l'on entend dit énormément sur celui qui est en train de parler. Un enfant ne s'y trompera pas. Il dira « T'es fâché ?» parce qu'il aura senti dans l'intonation de la voix qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ou bien l'épouse trouvera véritablement qu'elle peut s'abandonner. Parce que la voix de l'époux la rejoint. Autrement dit, en disant « Je suis la voix », c'est un lieu de conversion. Si je suis au diapason de celui qui parle, j'ai toutes les raisons pour le comprendre. Et je ne suis plus du tout dans cette querelle dans laquelle on voulait mettre Jean-Baptiste. Mais la première lecture eh bien, nous redit la même chose. Quand Saint Jean parle de l'Antichrist, et c'est tout au début que cette manière d'appeler ceux qui ne veulent pas rentrer dans cet amour de Jésus, dans cette douceur, dans cette humilité, dans ce nouveau message. Jean parlera de l'Antichrist. Parce que Jésus dans son être, Jésus dans son message, on ne veut pas l'entendre. C'est d'autres choses qu'on veut entendre, mais certainement pas ce que lui va dire. Alors Jean dira, faites attention, il refuse de rentrer dans l'amour. Nous retrouvons la même dynamique que la première. Il refuse d'entrer dans l'amour, le seul lieu par lequel nous pouvons être en communion avec le Père et le seul lieu avec lequel nous pouvons être en communion les uns avec les autres. Donc, dans ce combat qui est le nôtre aujourd'hui, il nous faut demeurer dans l'amour, ne pas bouger de ce lieu-là et laisser l'orage du monde passer et ne surtout pas le nourrir et encore moins s'affronter à lui, sinon nous serions perdants. Mais par contre, pour vous, gardez en vous-même ce que vous avez entendu depuis le commencement. C'est vraiment une nouvelle création, une nouvelle manière. Ça doit se retrouver dans nos familles, ça doit se retrouver dans nos foyers, ça doit se retrouver dans la communauté, dans l'Église. Une nouvelle manière d'approcher l'autre avec l'humilité avec laquelle Dieu s'est approché de nous. Il est venu, le Dieu Tout-Puissant, par Marie, cette femme douce et humble entre tous, comme un tout petit enfant. Et si nous ne nous laissons pas toucher par ce tout petit enfant, convertir par ce tout petit enfant, nous ne pouvons pas le suivre. Gardez en vous-même ce que vous avez entendu depuis le commencement. Demeurez dans le Fils. Quand on voit, et la passion va nous le montrer, et la crucifixion de Jésus encore bien plus, quand on voit comment la violence va se déchaîner contre Jésus. Or, Jésus, toujours, dans son humilité et sa douceur, laissera faire, trouvera sa force dans l'Esprit Saint et dans la volonté du Père, mais demeurera dans l'amour envers et contre tout. C'est vraiment un chemin qui nous est donné de douceur et d'humilité pour aborder une nouvelle année. Voilà ce que j'avais à vous dire au sujet de ceux qui cherchent à vous égarer. Demeurez dans l'amour, c'est la seule manière de suivre Jésus et d'être fidèle à son enseignement. Et l'apôtre continuera, je termine, vous avez reçu l'onction. Vous avez reçu l'Esprit Saint, vous avez reçu le défenseur, vous avez reçu l'avocat, vous n'avez même pas à chercher votre défense. Dieu s'en charge, il est venu pour ça, il est le sauveur du monde. La seule chose qui vous est demandée, c'est de demeurer dans cet amour. Eh bien, c'est la grâce que nous demandons. Mes petits enfants, demeurez en lui, alors vous aurez de l'assurance. Notre force, elle n'est pas celle du monde. Elle est celle de Dieu. C'est la force de l'humilité, de la toute petitesse et de l'immense pauvreté.